pour le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons, axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de 4 merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolos bizarres, avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invités à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Hello, on se retrouve dans ce 41e épisode que j'ai envie de consacrer à l'alimentation, ou plutôt comment on peut soutenir une personne, là je pense en particulier à une jeune maman, mais pas seulement, en lui concoctant des bons petits plats. J'ai intitulé cet épisode « Soutenir les jeunes mères en leur offrant des plats maison ». Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses plus importantes dans la période pré- et post-natale que d'avoir une tribu qui veille sur nous et qui puisse nous sustenter avec amour. Vous avez déjà entendu ce mot « sustenter » ? On l'utilise assez peu désormais, mais il est très intéressant je trouve. C'est un verbe qui vient d'un mot latin « sustentare » qui signifie « soutenir ». Et c'est vraiment l'idée de soutenir par l'alimentation. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on offre aux jeunes mamans des repas tout faits. On leur permet d'accéder à une alimentation qui soit de qualité dans un moment où elles en ont grand besoin. Mais en plus de ça, on apaise leur cœur en leur livrant un message très important. Tu n'es pas seule, je suis là pour toi. C'est vraiment précieux. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Les jeunes mamans n'ont rien de mieux à faire que de rester collées à leur bébé. Et pour ça, pour leur permettre d'avoir ce moment de fusion, de rencontre, rien de mieux que de les dispenser d'une tâche qui est parfois gratifiante mais qui prend toujours beaucoup de temps, qui est de la cuisine. Et je trouve que c'est une manière de soutenir qui est très abordable et très accessible parce que pratiquement tout le monde a besoin de s'alimenter, donc a des petites bases en cuisine. On n'a pas besoin d'être une grande chef, un grand chef cuisinier, pâtissier pour pouvoir proposer des recettes qui soient sympas. L'idée, c'est vraiment de faire avec le cœur.
Vous avez sans doute déjà entendu cette petite phrase d'Hippocrate qui dit que ton alimentation soit ta première médecine. Je pense que c'est particulièrement vrai dans cette période qui est pré- et post-natale où on a vraiment des besoins très spécifiques pour pouvoir non seulement à sa santé, à sa vitalité, mais également à celle de son enfant à venir ou juste né. Alors bien sûr, les petites astuces que je vais vous donner ici, elles ne sont pas seulement pour la période pré- et post-natale, elles peuvent tout à fait s'appliquer dans d'autres cas de figure, comme par exemple après une séparation, après un deuil, ou alors vraiment dans des périodes assez challengeantes de la vie, où les personnes vont avoir besoin d'une alimentation qui soit équilibrée et nourrissante pour leur fournir assez d'énergie pour braver des situations qui sont parfois très difficiles à vivre, parfois qui sont très riches et merveilleuses, mais toujours est-il qui vont demander une grande disponibilité que les personnes n'ont pas, aussi bien parce qu'elles n'ont pas les ressources mentales pour le faire à ce moment-là, mais aussi parce qu'elles ont besoin d'être en convalescence ou lors du mois d'or. Donc déjà, une petite info, si vous avez envie d'accéder à 10 recettes du mois d'or, vous pouvez aller télécharger mon e-book qui est à prix libre. Je mettrai les liens dans le note de ce podcast. J'ai rassemblé des recettes qui sont à la base végétariennes, voire véganes, mais qui peuvent tout à fait être un petit peu aménagées pour pouvoir être un petit peu modifiées, pour pouvoir être carnées. J'y ai rassemblé les recettes que moi j'aime faire, que je fais régulièrement, aussi bien pour soutenir les mamans et les familles que j'accompagne en tant que doula, mais également celles que j'aime pouvoir faire au moment des formations que je propose, lors des tentes et des cercles de parole que je facilite. Et voilà, c'était un petit peu les recettes qu'on me demande souvent, que j'ai voulu rassembler ici et pouvoir vous les offrir. Je ne vais pas entrer ici dans le débat, est-ce qu'il vaut mieux avoir une alimentation qui est plutôt végétale ou plutôt ancestrale. Je sais que le sujet enflamme pas mal la toile ces derniers temps. J'ai clairement la sensation qu'il n'y a pas, on va dire, de consensus, ni au niveau des études, ni au niveau des recommandations. Je pense qu'il est important de prendre en compte la dimension culturelle et également que chaque personne puisse faire ses choix en conscience. Toutefois, il y a une chose, je crois, qui va mettre tout le monde d'accord, c'est qu'il est particulièrement important de pouvoir bénéficier des avantages d'une cuisine qui est faite maison. Pourquoi ça? Tout simplement parce que on a malheureusement, j'ai envie de dire, la trop grande facilité d'avoir accès à des aliments qui sont ultra transformés. Donc c'est un petit peu le piège quand on n'a pas forcément le temps ou l'énergie de cuisiner soi-même, on va vite se rabattre sur des plats tout faits, que ce soit des plats qui soient surgelés ou pas. En tout cas, le commerce, les grandes surfaces en débordent et tous ces produits sont ultra transformés et forcément nocifs pour la santé. Ils ont des valeurs nutritionnelles qui sont vraiment très contestables. Donc s'il y a une recommandation à faire, c'est de vraiment faire en sorte de pouvoir cuisiner à base de produits qui soient frais et dans le meilleur des cas, des aliments qui soient biologiques et locaux. Tout simplement parce que ça va permettre de réduire au maximum son exposition aux pesticides et à tous les produits chimiques qui peuvent se trouver sur l'alimentation conventionnelle. On n'a pas encore pleinement, je pense, conscience de tous les tenants et les aboutissants de la nourriture ultra transformée pour nos enfants. On sait désormais qu'on peut retrouver des traces de pesticides dans les placentas des bébés et dans leurs premières selles, c'est-à-dire qu'ils y sont confrontés avant même de naître. Et même si on ne peut pas avoir une alimentation parfaite en excluant totalement les pesticides, c'est vraiment le moment de s'y mettre si ce n'est pas encore le cas. Et donc, si vous cuisinez pour des jeunes mamans, je vous conseille vivement de pouvoir choisir des aliments de qualité. Les aliments biologiques, ils vont être plus riches en nutriments, ils vont avoir plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'antioxydants. Et en fait, c'est vraiment ce qui va permettre à la mère de retrouver de la vitalité, de pouvoir avoir un capital santé et le maximum de ressources, aussi bien pour faire face à ce moment qu'on considère parfois un marathon qui est la naissance, mais aussi bien à tout l'après, tout le postnatal où elle va être complètement happée, toute son énergie va être happée par l'accueil et l'allaitement de son bébé si c'est le choix qu'elle fait. On peut également ajouter que ça fait sens puisque quand on vient de mettre un bébé au monde, on a envie qu'il puisse vivre dans l'environnement le plus beau et le plus durable pour lui. Et donc forcément, passer à une alimentation qui soit biologique, c'est aussi favoriser ce respect de l'environnement, choisir d'encourager les petits agriculteurs locaux. Et cela permet de contribuer à la préservation des écosystèmes et donc à en plus réduire notre empreinte carbone. Ça peut paraître un petit peu difficile de voir aussi loin, mais moi je suis convaincue qu'en favorisant vraiment les producteurs locaux, en les soutenant, en achetant leurs produits, on va en plus permettre de soutenir l'économie locale qui soit lui permettre d'être plus durable et finalement en fait c'est créer le petit cocon qui va être autour de nos enfants quand ils vont grandir également. Donc je pense sincèrement que sur une vision à long terme c'est le meilleur choix possible. Alors ici je vais vous livrer des petites astuces pour pouvoir organiser au mieux ce moment où vous allez pouvoir soutenir par l'apport de petits plats faits maison les personnes que vous avez chères à votre cœur. Donc tout d'abord, il y a une manière qui est, je trouve, très intéressante, c'est de pouvoir faire une cuisine ensemble en prénatal. Ça peut se faire aux alentours de 7-8 mois de grossesse pour pouvoir faire vraiment une session avec la maman, pourquoi pas inviter des amis. Moi, c'est des choses que je propose notamment au moment de la cérémonie prénatale. J'en parle dans ma formation et de nombreuses personnes qui l'ont suivi m'ont dit que c'était vraiment un moment très agréable à vivre et qui en plus portait ses fruits puisque les mamans sont vraiment ravies de trouver ensuite dans leur congélateur des petits plats qu'elles ont pu cuisiner ensemble maison. Donc l'idée c'est de se faire un gros back cooking. Donc, je ne sais pas si vous êtes au fait avec cette pratique. C'est une manière de pouvoir rassembler la cuisine de plusieurs plats ensemble et puis de faire d'affilée différentes recettes histoire d'avoir vraiment une grande quantité de nourriture qu'on peut ensuite congeler ou conserver de différentes manières, par exemple en stérilisant des bocaux pour pouvoir les retrouver ensuite dans le postnatal. Moi, il y a une chose que je fais régulièrement, c'est lors de cette cérémonie prénatale. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de vivre une cérémonie prénatale pour anticiper sur ces recettes, mais c'est un moment qui peut vraiment être agréable à ça. Si les femmes n'ont pas l'occasion de cuisiner ensemble, que chacune puisse apporter un, deux, voire trois plats, pourquoi pas. C'est pas un travail énorme en soi et ça va vraiment être soutenant dans les premières semaines, dans le premier mois, de pouvoir retrouver cette petite attention-là. Et puis parfois, en plus, c'est un moment où, avec les hormones, il peut y avoir un petit baby blues, un petit moment de down et savoir qu'on va pouvoir ressortir la nourriture avec cette vraiment ce soutien, ça fait chaud au corps et chaud au cœur, d'où le terme encore sustenté. Autre petite astuce qui peut faciliter la vie des parents, c'est de prévoir un planning vraiment assez strict. Alors, bien sûr, on ne connaît pas la date de naissance du bébé, c'est déjà lui qui décide, mais ce qu'on peut faire, c'est de se dire, ok, ben, le jour J, il y a telle chose, moi je conseille vraiment le bouillon parce que c'est très digeste et c'est quelque chose de chaud qui va bien soutenir la mère après ce grand travail. Et puis après, jour 1, qui va apporter le repas du midi, qui va rapporter le repas du soir, jour 2, jour 3, jour 4, au moins sur la première semaine. Si on le fait sur un mois, c'est encore mieux. Mais ce qui permet de savoir au moment où la maman annonce l'arrivée de son bébé, au moment où elle annonce la naissance, que les personnes chères sachent qui va apporter le plat. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour l'avoir expérimenté à de nombreuses reprises. Chaque membre de la tribu postnatale va pouvoir savoir quoi apporter et à quel moment. Et ça, c'est quelque chose de très très précieux. L'idéal est donc de voir en amont quelles sont les préférences de la jeune mère et de la famille pour savoir sur quelle recette on va s'orienter. On peut imaginer des plats qui se réchauffent facilement, des plats mijotés, des soupes, tout ce qui va être gratin, lasagne, tagine, ça se porte très bien à être réchauffé. En général, c'est des choses qui sont assez longues à cuisiner et du coup, il est possible pour la famille nouvellement constituée d'agrémenter avec seulement une base comme un céréal et puis un petit peu de verdure, pourquoi pas. On va faire en sorte, quand on prépare les repas, de veiller à ce que les quantités soient suffisantes. Si on arrive avec un plat pour une jeune maman, faire en sorte que ça puisse être suffisant pour l'ensemble de la famille. Donc forcément, ça ne sera pas la même chose si ce sont des jeunes parents avec leur premier bébé ou si c'est pour une famille de 5 ou de 6. Il est aussi possible de faire une grosse quantité et de le congeler ou de le stériliser par plus petite quantité pour pouvoir après adapter un petit peu en fonction des besoins et de ressortir une, deux ou trois portions au fur et à mesure. Ça sera également plus facile à chauffer si c'est en petite réchauffer si c'est en petite quantité que quand c'est en gros bloc. Un petit point important, veillez à ce que les contenants que vous puissiez utiliser soient le plus sains possible. C'est-à-dire, on met de côté les tupperwares qui appartenaient à la grand-mère, qui ont une composition plus que douteuse. On fait en sorte d'utiliser plutôt des matières neutres comme le verre ou comme l'inox. Ou alors des contenants qui soient en plastique sans bisphénol, le fameux BPA qu'on peut retrouver. Mais veillez quand vous transférez votre nourriture dans les contenants, alors à ce que la température ne soit pas chauffée pour qu'il puisse y avoir le moins de transfert possible vers la nourriture. Pensez bien à étiqueter les plats que vous allez apporter, notamment s'ils sont destinés à être mis au congélateur, parce que ça va permettre de savoir très vite de quel plat il s'agit, quelle est la quantité et quand est-ce qu'ils ont été cuisinés. Si vous voulez rajouter une petite note, un petit mot doux ou des conseils de préparation, et ben c'est encore mieux. J'ai vu des mamans qui organisaient vraiment leur congélateur avec un tiroir pour chaque date, le tiroir de la première semaine, le tiroir de la deuxième semaine. Toutes ces petites choses-là peuvent être aussi facilitantes. Vous vous doutez bien que toutes ces intentions, vont être très intéressantes parce qu'elles vont permettre de faire gagner du temps aux parents qui vont pouvoir se consacrer encore mieux à leur bébé, à leur bien-être, à leur repos. Elles vont leur permettre de relever le défi d'accueillir un nouvel être sur cette terre en ayant les meilleures ressources possibles, en s'alimentant correctement. Et puis, ça va leur permettre aussi une certaine flexibilité. En fait, d'avoir des réserves de repas d'avance, comme ça, ça permet aussi de pouvoir se décharger une journée qui est un petit peu compliquée. Les bébés ont parfois des pleurs de décharge, par exemple, dans les premières semaines. Personnellement, je suis vraiment pleine de reconnaissance et de gratitude d'avoir reçu de telles attentions pendant mon post-natal. Les repas qui avaient été préparés avec amour par mes proches, ça a été un véritable cadeau. Non seulement, en fait, ça m'a soulagée du stress et de la charge mentale liée à la préparation des repas. Dans une famille nombreuse, c'est quand même un sacré dossier. Mais en plus, ça m'a permis de me concentrer vraiment sur la récupération et le lien avec mon bébé. Chaque bouchée, pour moi, c'était un rappel du soutien et de l'amour qui m'entourait. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je recommande vivement à toutes les mamans de demander ce type de soutien communautaire. Parce que pendant cette période-là, c'est pas toujours évident. On a vraiment tendance à faire des listes de naissances à rallonge avec beaucoup de matériel. Mais je vous assure que votre bébé va avoir besoin de vous. Et si vous n'avez pas un entourage qui pense de lui-même à avoir ce genre d'intention, ben en fait, c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas les bonnes informations et peut-être que vous pouvez leur envoyer, par exemple, cet épisode de podcast qui leur donnera à la puce à l'oreille. Et n'hésitez pas à demander. Je le sais, c'est pas facile. Je suis la première à avoir énormément de mal à demander du soutien et de l'aide. Mais je vous assure que les personnes ne peuvent pas deviner si elles n'ont pas cet élan naturellement. Et si vous leur demandez, elles seront très contentes de le faire. C'est quelque chose, c'est un geste qui est très abordable, qui est Vous allez même sûrement pouvoir découvrir des recettes que vous ne connaissiez pas, que vous aimez. Et c'est vraiment quelque chose de très gratifiant pour les personnes que de vous soutenir de cette manière. Pour finir cet épisode, je vais vous faire un petit tour d'horizon des relevailles que j'ai pu trouver dans le monde. Donc au Japon, il existe différentes traditions qui s'appellent Oseshi, où des repas spéciaux sont préparés pour les jeunes mères après l'accouchement. Ces repas, ils comprennent des plats qui sont nutritifs, tels que des légumes marinés, du poisson et du riz, qui sont censés aider à la récupération et à la production du lait maternel. En Chine, la cuisine postnatale est connue sous le nom de Zhuowei-ji. Je suis désolée si ma prononciation n'est pas correcte. Je vous mettrai ces notes-là à l'écrit pour que vous puissiez les retrouver. Les femmes qui viennent d'accoucher, donc a priori, elles reçoivent des repas qui sont spécialement préparés pour favoriser la guérison et la récupération. Ces plats sont souvent riches en protéines, en vitamines et en minéraux et comprennent des ingrédients tels que le gingembre, le riz gluant et le poulet. En Inde, il y a ce qu'on appelle le confinement diet. Il est pratiqué pour soutenir les jeunes mères après l'accouchement. C'est un régime alimentaire qui se concentre sur des aliments chauds et nourrissants tels que des soupes, des céréales, des légumes cuits et des épices. Il est également courant de consommer du ghee, le beurre clarifié, pour ses bienfaits nutritifs. En Amérique latine, la quarantena est une période où la mère reçoit un soutien nourrissant de sa famille et de sa communauté. Des repas traditionnels et nourrissants tels que la soupe de poulet, les haricots et le riz sont préparés pour favoriser la récupération et la production de lait. Dans de nombreuses cultures africaines, il existe des pratiques alimentaires spéciales après l'accouchement. Par exemple au Nigeria, le umongo est une tradition où la grand-mère de la mère prépare des repas nourrissants pour la jeune femme. Ces repas comprennent souvent du poisson, du riz et des légumes verts. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé lors de mes voyages avant même d'être maman, notamment au Laos où je me souviens qu'on me racontait que la mère qui vient d'accoucher de son premier enfant se retrouve pendant une semaine complète alitée, à ne pas sortir de son bungalow avec son bébé pour rester collée et faire connaissance. Et pendant ce temps, elle est nourrie en fait. Elle se lève seulement pour aller aux toilettes, pour faire sa toilette, et le reste du temps, on lui apporte tout ce dont elle a besoin, avec certaines croyances envers des aliments qui sont interdits. Alors il y en a qui sont interdits pendant la grossesse, d'autres qui sont interdits pendant l'allaitement, notamment la pastèque qui rendrait le lait mauvais. Bien sûr, il y a de plus en plus, bien sûr, je ne sais pas si c'est bien sûr, mais toujours est-il qu'il y a de plus en plus d'allergies alimentaires qui peuvent être ou intolérances qui peuvent être très tôt nuisibles à l'enfant. Il est assez fréquent que les jeunes mamans se retrouvent à faire des évictions aux produits laitiers, par exemple. Dans certaines recettes, il sera plus simple de rajouter un petit peu de crème, par exemple, plutôt que de se priver de ce plat qui a été fait parce qu'il y a un doute sur une éventuelle suspicion d'allergie. Autre petite chose, en Europe, les pratiques des relevailles varient d'un pays à l'autre. Dans certains pays, comme en France, il existe une tradition appelée la cuisse de la mère, où la famille et les amis offrent des repas et des soins à la jeune mère pendant les premières semaines après l'accouchement. Ces repas sont souvent préparés avec des aliments nourrissants tels que des soupes, des légumes cuits, des viandes maigres et des fruits. Ce terme, la cuisse de la mère, il fait référence à l'expression française « donner la cuisse » qui signifie « offrir de la nourriture ou des soins à quelqu'un ». Voilà, on va arriver au bout de cet épisode. J'espère que vous y trouverez des choses intéressantes à pouvoir appliquer au quotidien. N'oubliez pas que ça peut totalement s'avérer utile dans plein de contextes différents. Si vous avez quelqu'un que vous avez envie de soutenir autour de vous, peu importe le contexte, que ça soit une post-opération, que ça soit une post-séparation ou une période de précarité quelconque, eh ben, n'hésitez pas, ça fait du bien, c'est vraiment quelque chose qui permet de tisser des liens, de renforcer ceux qui sont présents. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles, je vous assure, ça aide énormément. Il y a également des petits sondages qui sont faits dans les notes du podcast si vous avez envie d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt et au plaisir, à la semaine prochaine.